Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour ce 52e épisode, c'est le témoignage de Léonard que vous allez entendre. Son entrée très précoce dans la sexualité, sa dysmomorphobie, ses soucis de confiance en lui qui l'ont amené à vivre une sexualité subie, comme il le dit, mais aussi les différentes partenaires qu'il a eus, son rapport à l'autre, au corps, au désir et l'orgasme, la taille de son pénis et le rapport que les hommes peuvent avoir avec, c'est un sujet dans le sujet. Léonard a testé de nombreuses pratiques et a emprunté de nombreux chemins dans sa sexualité. Bref, comme vous allez le constater, c'est un témoignage abondant et dense que ce jeune homme de 31 ans vous propose au micro de On the Verge. Je vous laisse avec Léonard et notre conversation. Comment ça va, Léonard ?
Ça va bien, merci.
Je vais te poser, Léonard, la question que je pose à tous mes invités que tu connais, puisque tu m'as dit que tu écoutais le podcast régulièrement. Léonard, c'est quoi ton tout premier souvenir lié à la sexualité ?
Alors, c'est une question à laquelle j'ai pas mal pensé avant, et ça a été une question assez dure à répondre, parce que je me souviens pas très jeune, entre 3 et 5 ans, ou même 6-7 ans, d'avoir un premier accès à la sexualité. Et je pense que, après, le problème, c'est que la mémoire, souvent, se modifie au niveau des âges, ou ce genre de choses, et donc j'ai du mal à situer trois souvenirs, en fait, qui sont liés à une sexualité. Mmh. C'est quand j'étais à peu près au CO2, j'ai fait une... À l'été, j'étais en centre aéré, et un ami à moi, plus vieux que moi, en fait, de 4-5 ans, m'a montré mon premier film porno. qui est... Donc j'avais, je pense, entre 8, je pense, 8 ans.
Est-ce qu'on peut appeler ça un ami ?
Oui, parce que c'était jeune. Un très bon ami, mais il était en 6e et moi j'étais en CE2, donc il a eu un accès assez jeune aussi. Et en plus, c'était un film horrible. C'était un vieux film des années 70, 80, porno... avec une image un peu dégueulasse, et c'était étonnant. Mais on va dire que c'est déjà une entrée un peu dure dans la sexualité.
T'arrives à te rappeler, un peu ce que tu ressens à ce moment-là ? Est-ce que tu comprends ce qu'il te montre ?
Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Est-ce qu'on t'avait déjà expliqué
Alors, oui, en fait, je comprenais assez bien. Et je pense que... j'ai grandi dans une famille où le corps, j'ai toujours vu mes parents tout nus. Donc, je comprenais très bien qu'en fait c'était un film pornographique. Et je comprenais aussi très bien que certaines choses n'étaient pas réelles, même si j'étais jeune. On va dire réelles dans le fait que je voyais très bien mon pénis et que je voyais le pénis des hommes dans le film porno. Et je me disais, je crois qu'il y a un problème de taille.
Oui, on en parlait juste avant d'enregistrer. C'est vrai que. C'est compliqué de se comparer, c'est compliqué des exemples, enfin les hommes et les physiques qu'on voit en pornographie, quoi, qui sont pas tellement, enfin à part maintenant dans une forme de pornographie éthique, on a du mal effectivement à se reconnaître, quoi.
Oui, et en plus je pense que ça peut réellement créer des complexes
pour,
moi je sais que je suis quelqu'un de très complexé, hein. De toute façon c'est quelque chose que j'assume assez facilement et enfin.
T'es complexé physiquement?
Oui, et alors qu'en réalité, je suis assez déconstruit surtout sur la taille, sur même l'acte pénétratif, et sur mon corps même, je suis quelqu'un de sportif, mais en fait, je sais que je suis sportif parce que je suis facilement complexé. Et donc, il y a une forme de compensation à travers le sport.
C'est ce que tu me disais, t'as été préparateur sportif, t'as fait des arts martiaux et tout, donc t'as quand même un rapport au corps qui, en tout cas, de faire attention à ton corps et à ta condition physique qui est forte. Mais tu penses que c'est ce qui a... Enfin, tes complexes sont motivés
Je pense qu'ils sont en partie... Hors le rapport à la pornographie, mais aussi je viens d'une famille où j'ai des personnes en surpoids et j'ai vu en fait ces personnes en surpoids être humiliées par ma même famille quand j'étais jeune. Et ça m'a fait dire qu'en réalité, il ne fallait pas que je sois comme ça. Donc ça m'oblige à presque avoir toujours un peu contrôlé ça.
D'accord.
Et, donc tu et plus j'ai vieilli, plus j'étais complexé, et plus j'ai fait du sport, plus j'étais complexé. C'est assez étonnant, mais...
Bah, t'étais complexée de quoi? Qu'est-ce qui te complexait? Parce qu'une fois que t'as fait du sport, et les sports en plus que tu as fait, qui sont quand même assez complets et créent des corps plutôt esthétiques, ou en tout cas dans les normes, c'était quoi?
C'est oui, dans les normes, oui.
T'arrivais pas au niveau auquel tu fantasmais?
Bah, je pense réellement qu'il y a une forme de dysmorphophobie, parce que plus jeune, j'en avais un peu rien à faire, et j'ai pu avoir des relations avec des filles plus vieille et très jeune, et ça m'a jamais posé de soucis. Et dès que je suis rentré un peu dans le fait de prendre soin de mon corps, tout d'un coup, il y a encore ce rapport de comparaison qui se fait. Puis on arrive dans un monde de la préparation physique où les gens sont très esthétiques, sans être pour autant fonctionnels, mais très esthétiques. Et ça, je pense, favorisait encore plus ces complexes.
Ah ouais, c'est un cercle vicieux, du coup. Hein.
Ah oui, très vicieux.
Donc c'est ce petit garçon qui donc découvre assez tôt finalement la pornographie et, et on parlait de sexualité facilement.
Alors assez bizarrement par contre, ça n'a jamais été quelque chose, il n'y a jamais eu de discussion autour de la sexualité, j'ai dû vraiment, et en fait je me la suis construite moi-même à travers à l'époque des blogs ou ce genre de choses, en lisant des articles.
Si tu avais des questions, tu pouvais pas les poser?
Sûrement, mais je crois que en fait, j'ai jamais vu mes parents comme étant des personnes vers qui je pouvais me tourner pour poser des questions.
D'accord.
Parce que ça n'a jamais été un couple qui marchait très bien, donc quand j'étais plus jeune, donc j'ai tout de suite compris à la limite que la sexualité de mes parents n'était pas très forte.
Ouais, je comprends. D'accord.
Donc en réalité, ma sexualité s'est vraiment créée avec mes partenaires.
Ouais.
Et je pense à travers, au final, des images, la pornographie, comme beaucoup d'hommes, malheureusement, peut-être avec de la mauvaise pornographie. Mais après, est-ce qu'il y a vraiment... Or, il y a de la mauvaise pornographie, mais je pense que ça dépend le rapport qu'on a à celle-ci. Est-ce qu'on la garde comme étant quelque chose qui nous excite ou quelque chose qu'on utilise comme un cadre de sexualité?
Bien sûr, c'est ça, c'est tout le rapport que tu as avec la fiction, le voir comme une réalité, ou est-ce que tu as envie de transposer ça dans ton lit, etc. Enfin, c'est vrai que c'est... La mauvaise pornographie, je ne sais pas, mais en tout cas, la façon dont l'appréhende, c'est une vraie question. Donc, du coup, tu arrives prépuberté, puberté, comment ça se passe pour toi?
On va dire que dans un des autres souvenirs que j'ai de ma sexualité, il y a un film qui a marqué ma vie, et je pense qu'il m'a pas déconstruit, mais et c'était pas un film porno, pour le coup, même s'il s'en rapproche, parce qu'il passait dans les années 70 dans les cinémas pornographiques de Paris, parce qu'il était beaucoup trop dur à regarder, et même pour des cinémas normaux, c'est Les 120 jours salauds ou Les 120 jours de Sodome de Pasolini.
Ok, et tu vois ça à quel âge?
10 ans, par hasard.
Ah ouais.
Je l'ai trouvé une cassette VHS chez mon oncle, et je l'ai mise, et j'ai regardé le film en entier, et donc c'est une adaptation du roman de Sade, qui
est...
J'adore. Enfin, le Marquis de Sade, c'est très intéressant en politique, en philosophie. J'ai eu un prof qui nous a fait étudier ça.
Ah oui, c'est une œuvre littéraire extraordinaire, mais que tu dois pas lire.
Mais par contre, c'est
10 ans, quoi.
Pas 10 ans et pas voir un film adapté de ça à 10 ans avec.
Alors, est-ce que tu peux
la torture.
Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux le raconter rapidement?
Alors simplement, en réalité, c'est 9 jeunes femmes et jeunes garçons qui sont pris par des nobles dans une forme d'internat où en gros ces jeunes femmes et jeunes hommes servent à répondre à tous les désirs, que ce soit de vie sexuelle ou de mort sur ces personnes qui passent par des tortures, par de la scatophilie, par toutes les humiliations possibles. Alors je sais pas si j'ai trouvé ça horrible, mais c'est dur de se souvenir vraiment, et je pense qu'il y a des choses qu'on supprime un peu dans notre mémoire, dans nos rapports aux œuvres, mais j'en ai des souvenirs qui me disent ben je vois ça. Je sais que c'est pas bien, et je sais que la plupart des adultes supporteraient pas le regarder en entier, mais je pense que moi j'ai juste regardé ça d'un œil assez curieux, au final. Ça m'a permis quand même de me construire d'une certaine façon, je sais, et de me mettre un cadre où, parce que personne m'a jamais dit que ça il fallait pas faire, ça il est pas faire. Donc ce film, je l'ai vu d'une façon, tout ce qui se passe là-dedans, faut pas que je le fasse.
Ou en tout cas,
pas à ce moment-là.
Très très consentant. Et
oui,
pas maintenant.
Bah, de toute façon, ça reste. Il n'y a aucune sexualité mauvaise tant qu'elle est consentante.
Ok, donc t'as 10 ans, donc waouh, t'arrives avec dans ta puberté avec un bagage quand même assez intéressant. Comment ça se passe alors?
Alors, je rentre avec un an d'avance en collège et je rencontre en fin sixième une quatrième.
Donc, t'as 11 ans.
10 ans et demi, 11 ans. Et avec du recul, en réalité, alors, J'avais déjà, en fait, par les discussions avec des amis, avec mes amis plus vieux, la conception, en fait, de la sexualité. Et j'ai jamais vu comme la pénétration comme étant l'acte qui fait qu'on devienne puceau ou pas puceau, en réalité.
Alors, comment ça se fait? Parce que tu fais partie d'une génération encore où la pénétration est officiellement le dépucelage.
Alors, je pense que je le dis aujourd'hui. À l'époque, j'en avais peut-être moins conscience.
D'accord.
Mais j'intellectualisais déjà le fait qu'à partir du moment où j'aurais des actes sexuels, en fait, le fait de rentrer mon pénis dans un acte hétéro, parce qu'à l'époque, je me considérais complètement hétéro, dans un vagin, c'était que quelque chose en plus. C'était un autre acte sexuel. Mais à 10 ans et demi, avec cette fille, en réalité, on allait en centre-ville de la ville où j'habitais, et on commençait à se bécoter, puis après, on allait derrière des buissons près d'un grand immeuble. Et en fait, là, j'ai fait mon premier cuni, j'ai reçu ma première fellation. Avec du recul, je me dis qu'à 10 ans et demi, 11 ans, elle était plus vieille que moi, c'est un peu malsain.
Elle avait quoi? Elle avait 13 ans, elle?
13, 14 ans.
Donc elle était pubère?
Oui, elle avait sa puberté de jeune fille.
Et toi, tu avais encore un corps d'enfant à 10 ans et demi, 11 ans?
Oui, clairement, malgré que j'ai jamais considéré que mon pénis soit très grand aujourd'hui, à l'époque, il était vraiment encore plus petit.
Non, mais au-delà de ça, c'est que...
Au-delà de ça, oui, j'avais un corps d'enfant.
Même hormonalement, j'étais un enfant. Il y a les attributs, effectivement, physiques qui sont les poils, la musculature, mais au-delà de ça, c'est que hormonalement, tu es encore considéré comme un
encore enfant. Même si après, ça dépend selon les gens, je pense, et au niveau hormonal.
Enfin, médicalement, tu es considéré à cet âge-là encore comme un enfant. Après, la maturité, c'est autre chose. Il n'y a que toi qui sais le curseur que tu peux mettre à ce rapport. Mais ouais, ok. Ou effectivement, c'est jeune et surtout avec une jeune fille qui était déjà dans son adolescence, quoi.
À l'époque, je ne le voyais pas comme mal, on va dire. Je l'ai vu comme, bon, bah, ça me tombe dessus. J'ai conscience de ce que je fais. À partir du moment où j'ai conscience de ce que je fais... Je considère que c'est pas problématique.
Ah oui, t'es ok avec
ça. Même si aujourd'hui, au vu de ma déconstruction, je trouve ça un peu problématique. Mais à l'époque, ça me posait pas de soucis.
Par rapport à elle, oui, elle aurait dû avoir la distance.
Oui, je pense.
Ouais. Je comprends.
Très clairement, je pense que je me verrais pas, moi, à 14-15 ans, aller vers une jeune fille de 10 ans ou 10 ans et demi. Voilà, exactement.
Non, mais t'as raison.
Ça me choque intellectuellement, ça me choque.
Ouais. Mais c'est vrai qu'on en parlait un peu avant. C'est vrai que la déconstruction, ça prend du temps, etc. Et on genre encore quand même pas mal les rapports comme ça. Et c'est vrai que, ouais, t'as raison. Là, quand tu le dis, bon, ça, c'est choquant parce qu'effectivement, moi, je vois un petit garçon de 10 ans et demi, 11 ans. Mais effectivement, dans l'autre sens, quand tu le mets dans l'autre, je me dis, waouh, le monstre, quoi, limite, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est.
Je pense, oui, très clairement, la question de genre se pose là parce qu'un enfant, un garçon de 10 ans et demi, 11 ans, ça choquera moins si une fille de 13, 14 ans lui fait quelque chose.
Pourtant.
Parce que. Mais alors, pourtant, c'est la même chose.
Bah ouais, pourtant,
dans la vie
c'est
de cet enfant.
Chose. Exactement. Non, mais c'est intéressant.
Et ça peut, oui. Et ça peut poser des problèmes après dans son fonctionnement, très clairement. Enfin.
Mais, ouais. Et donc, est-ce que tu te rappelles un peu, donc après ce moment avec cette jeune fille, bon, déjà vous avez des pratiques qui sont quand même déjà poussées.
Oui, très clairement.
Ok. Est-ce que toi, tu te rappelles un peu ce que tu ressens quand tu découvres le sexe féminin, quand tu découvres ce corps de jeune fille? Est-ce que t'es surpris? Est-ce que t'as des flashbacks? De se donner.
Alors, non, j'ai réellement les endroits dans ma tête, tout est très clair, des endroits de comment ça se passait, de la première fois que j'ai mis la main sur un sein, ou genre de choses. Malgré tout, entre l'âge où j'ai vu mon premier porno et ces fois-là, il y a quand même deux ans au final, parce que c'est le CE2, donc en fait, maintenant que je m'y remets le premier porno. Donc, à cause de mes amis, je peux dire à cause et pas grâce, à cause de mes amis plus vieux à cette époque, on va dire que j'ai eu la malchance de poncer quelques films porno.
Ah ouais.
Et donc, il y a le côté où je suis pas étonné de la vision du corps. Par contre, je suis quelqu'un qui passe beaucoup par les sens, et par le goût et par le toucher. Et c'est plutôt ça qui me... Il y a plutôt cette chose de toucher ce corps. Vraiment, d'y avoir accès, de pouvoir parcourir un corps. Pour moi, je trouve très clairement que la vue, c'est bien. Mais des fois, c'est très intéressant de mettre tout dans le noir et de passer par les sensations, que ce soit du goût et du toucher, de l'odeur. Et moi, c'est beaucoup ça qui me... Je pense que c'est même à cette époque où j'ai pu comprendre à quel point j'étais... par exemple, je suis très, très, très sensible à l'odeur d'une personne. Okay. Moi, c'est quasiment tout ce qui compte. pour me sentir bien avec quelqu'un, c'est pouvoir mettre ma tête dans son cou, dans ses cheveux, et me sentir genre apaisé.
D'accord.
Et donc, moi, je me souviens surtout de ça, en fait, de découvrir. Après, le sexe en lui-même, d'avoir touché ou mettre la bouche, c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement surpris, en fait.
Ouais.
Après, je pense que je devais très mal m'y prendre, ce qui est probablement le cas. Et puis, je pense que même plus vieux, on peut très mal s'y prendre si on ne sait pas écouter l'autre. Ça, c'est une réalité. Mais je pense qu'à 10 ans et demi, j'étais pas prêt pour ça.
Non, mais peu de gens, hein, finalement. Okay.
Mais je me souviens surtout du toucher du corps et de la peau, ouais. En fait. C'est surtout... J'ai trouvé ça fabuleux, en fait, tout simplement.
Et avec cette jeune fille, donc, du coup, vous allez vivre une amourette ou ça va être juste quelques épisodes derrière les buissons?
Quelques épisodes à la sortie du collège, derrière des buissons, et ça a duré 3-4 mois.
T'en parles avec les copains?
Non, ça c'est une fois où j'en ai pas parlé, je pense qu'il était trop tôt et je crois que malgré tout, je devais avoir conscience que c'était pas...
Ouais.
Il fallait pas en parler.
C'est peu orthodoxe quand même.
Que c'était... Ouais, c'était bizarre.
Ouais, ouais.
Donc je pense que je devais en avoir au fond conscience.
Et donc tu commences une vie sexuelle active finalement très tôt.
Oui.
Et comment ça va se développer au fur et à mesure du collège et puis la puberté aidant?
Alors, en fait, après, il a fallu attendre un an et demi, 2 ans pour que je rencontre mon vrai premier couple, parce que j'ai après mon premier couple dans ma vie. Donc là, on commence à faire, à se toucher, au genre de choses. On avait 13-14 ans, hein, bah, à l'époque, elle avait un an de plus que moi. Et arrive, en fait, la première fois qui a été, je pense, encore une fois, un truc pas très... En fait, c'était pas très cool, même du tout. Mais
pourquoi c'était pas très cool?
En gros, je peux le dire, il y a le village de mon cul en France qui est connu, mais il y a un village en Bourgogne qui s'appelle Poil. Et donc ma première fois, je l'ai fait à poil et je trouve ça génial.
C'est très rigolo. J'ai fait ma première fois à poil.
Ce qui en soi est pas mal, mais il y aurait pu avoir mieux. C'est-à-dire que c'était dans une maison de famille et. En réalité, elle avait ses règles, et dans la journée, elle me fait « Oh non, j'ai mes règles, on ne va pas pouvoir le faire. » Je fais « Ok, il n'y a pas de problème, on ne le fait pas, ça ne me dérange pas. » Moi, je n'avais pas de problème avec ça, c'est-à-dire que j'ai jamais vu ça comme bizarre, en fait, les menstruations féminines. Donc, si une de mes partenaires, aujourd'hui, dans ma vie, me dit « J'ai mes règles, mais ça ne me dérange pas », moi, ça ne me fait vraiment rien du tout. Enfin,
d'accord.
C'est pas sale, c'est du sang, on s'en fout. Mais à l'époque, à 13 ans, moi, je lui ai dit « On n'est pas obligé de le faire, c'est pas grave. » Elle me fait « Si, j'ai trop envie. » De sa chambre, elle est venue me rejoindre dans le grenier avec mon père qui dormait, qui ronflait. Et donc, ma première fois avec mon père dans la même chambre. Et,
à poil.
Elle est à poil, elle qui a ses règles, le drap qui est horriblement trempé de sang à 3 heures du mat, qu'il faut changer en pleine nuit pour pas que ça se sache. Enfin, c'était, ouais. C'était épique en fait, avec une belle musique de Seigneur des Anneaux, ça pourrait faire l'affaire.
C'est vrai que l'environnement était pas optimal, mais vous l'avez fait.
Mais j'en garde pas des mauvais souvenirs, puis en fait...
Et tu restes longtemps avec cette fille?
Je reste un an et demi, 2 ans.
Ah oui, donc vous avez une,
un an et demi,
une,
deux ans.
Une jolie histoire.
Oui, on a une... Alors, jolie, je sais pas.
Bon, parce vous
que,
avez une histoire.
Y a des... On a une histoire, mais il y a eu plusieurs choses qui ont... Alors, avec elle, j'ai découvert... on est jeune et donc elle était souple, j'étais souple, on a fait des positions improbables que peuvent faire des gens souples. Mais j'ai aussi eu la malchance. Enfin, c'est ma première vraie histoire et en fait, c'est la première fois que j'étais trompé. Ce qui a marqué, qui a après, sans du tout excuser des comportements que j'ai pu avoir, mais j'ai grandi dans un environnement où j'ai un père qui trompe ma mère, qui a trompé ma mère toute mon enfance. Et ma première fois, en fait, a été aussi... Enfin, ma première relation, c'est aussi basée, en fait, sur ça. Mmh. Et ce qui fait qu'après, j'ai quasiment trouvé que... Je crois que je l'ai intellectualisé en forme. Bon, c'est pas grave, apparemment, c'est comme ça qu'on fait.
Bien sûr. Non, mais après, en plus, il y a aussi la possibilité de que ce soit... qu'on parle pas de tromperie, mais que ça peut être aussi un deal entre deux adultes consentants, tu vois, enfin...
Exactement, enfin, moi,
aujourd'hui, il y a plein de formes possibles.
Exactement, je suis énormément... Enfin, j'ai pu passer, plus tard dans ma vie, par des associations polyamoureuses, enfin, des cafés philo polyamour ou ce genre de choses, et donc, j'ai pas de problème avec ça. À partir du moment où on s'est mis dans le contrat, en fait, ça devrait pas poser de soucis. Mais parfois, on a des comportements qui sont... contraire, même moi-même, j'en ai eu, hein, je l'assume, j'ai déjà trompé certaines de mes partenaires, et ça finit mal, et ça finit mal, et en fait, c'est sûrement parce que c'était mon... Quand on se sent abandonné, si on se sent abandonné, qu'on a toujours été comme ça dans notre vie, ça n'excuse pas ce qu'on fait, mais on essaye d'expliquer certaines choses. Après, on essaye de se reconstruire et de comprendre aussi comment ne pas refaire ça, en fait. Parce que ça fait du mal à tout le monde.
Il y a des besoins aussi de se rassurer sur des plans de séduction. Après, il y a tellement de raisons de...
Alors après, ça, je sais que moi, par exemple, je ne l'ai pas trop. Enfin, je n'ai pas ce côté de me rassurer au niveau séduction. Je pense que j'ai plus le côté où j'ai été éduqué de façon à toujours me sentir pas assez bien. Ça, c'est fait partie de mon éducation. C'est pas tellement de la séduction, mais j'ai plus du mal à dire non. Je pense, dans ma vie, j'ai eu plus du mal à dire non, parce que et ça m'a mis dans des relations même amoureuses nulles.
C'est-à-dire
hein,
pas capable de dire non de quelqu'un, enfin une femme qui te, ou un homme, enfin en tout cas quelqu'un qui te montre un intérêt. Enfin,
exactement, parce que j'ai l'impression, ah tiens, là peut-être que je mérite ça. Et d'accord. Ce qui est horrible, parce qu'en fait on se retrouve des fois dans des relations avec des gens qui ne nous conviennent pas du tout.
Donc je comprenne bien, c'est que t'es parce que t'es flatté de l'intérêt que la personne te donne.
Je sais pas si c'est flatté. C'est plutôt que j'ai profondément, et après je travaille là-dessus, et je pense qu'en grandissant, on trouve les moyens de travailler là-dessus, de façon à ce qu'on me dise que je suis des fois bon à rien, ou que j'arrive à rien, ou que je suis pas assez beau, par exemple. Parce que ça, je l'ai entendu, ou que je suis que de personnes qui devraient pas le dire, que je suis pas beau, ou que je suis pas assez bien. Et donc ça... Ouais, mes parents.
Waouh.
Très clairement. Et donc ça crée, en fait, après, quelque chose où, quand une... par exemple, on rencontre quelqu'un, il y a une forme de « Ah, tout d'un coup, cette personne, peut-être qu'elle me trouve belle et que peut-être qu'elle a l'impression que je suis assez bien pour mériter son amour. » Et donc, en fait, on peut aller des fois dans des relations, alors qu'intellectuellement, moi, je sais que je suis pas attiré de façon particulière sur un corps. Je veux dire que j'ai eu des compagnes obèses, j'ai déjà été avec des personnes presque anorexiques. Enfin, pour moi, c'est intellectuellement, j'ai besoin d'être nourri. C'est vraiment
oui,
ça qui
c'est
compte
ce que
le
tu
plus.
Me disais, c'est que tu as une forme de sapiosexualité qui se dessine toutefois.
Oui, de toute façon, mais ça fait que malgré tout, j'ai laissé cette sapiosexualité énormément de côté du fait que quelqu'un me montrait de l'intérêt et que j'avais l'impression que peut-être que c'est que je dois accepter en fait un peu une personne qui me porte de l'intérêt, même sans savoir si en fait c'est vraiment ce que j'ai envie.
Ouais, donc t'as une forme de déficit d'estime de toi, parce que l'estime de soi, c'est quelque chose que les parents construisent et que par la force des choses, effectivement, si c'est pas solide et que les fondations ne le sont pas, effectivement, quiconque te donne une forme d'intérêt ou en tout cas te donne l'impression d'eux, tu y vas parce que c'est satisfaisant, quoi.
Oui. Et en plus, j'ai même vécu ça dans ma sexualité, j'ai exactement la même chose. Enfin, c'est-à-dire que... Alors j'ai eu, on va dire, en fait pour moi il n'y a pas beaucoup de partenaires, ça ne veut rien dire, mais je dirais que j'ai eu une vie sexuelle très jeune et active. Je pense que j'ai vécu 6 mois aux États-Unis et c'est les seuls 6 mois dans ma vie où je n'ai pas eu de vie sexuelle, parce qu'on n'avait pas le droit d'en avoir, tout simplement.
Quand tu es parti faire du sport, tu m'as dit que tu es parti pratiquer les arts martiaux aux États-Unis.
Oui.
Et t'avais pas le droit d'avoir des
sexuels ? On vivait en autarcie, c'était vraiment 24 sur 24 l'entraînement. Mais objectivement, c'est peut-être les 6 mois de ma vie qui m'ont permis encore le mieux de retrouver ce que j'étais moi. Parce que j'avais pas de rapport à l'autre ou à la sexualité. Et j'ai eu en fait, dans 90% des cas, j'ai pas vécu ma sexualité comme moi je l'entendais. Mais je me suis adapté entièrement en fait à la sexualité de l'autre, au point de quasiment... me faire une je crois que c'est une dépersonnalisation, c'est-à-dire la plupart de mes actes sexuels dans ma vie, je les ai vécus en les regardant.
D'accord.
J'étais pas là, enfin malgré tout je suis quand même énormément à l'écoute du corps de l'autre, donc je fais parce que mon plaisir passe après, c'est comme ça que je vois les choses, ou peut-être parce que j'ai pas énormément accès au mien pendant longtemps, donc je faisais passer beaucoup le plaisir de ma partenaire avant, mais la personne ne le remarque pas. Et donc, j'ai accepté un peu des pratiques que je ne considère pas comme mauvaises, mais qui ne sont pas moi.
Donc, si tu peux rentrer dans les détails, c'est-à-dire que tu as accepté de pratiquer d'avoir des pratiques avec des partenaires ?
Alors déjà, des pratiques avec des partenaires du type sadomasochiste assez légères, mais malgré tout, sadomasochiste avec une cravache, une laisse. En plus, je ne peux pas être sérieux là-dedans. C'est-à-dire que moi, quand j'ai ça en main, c'est pas que ça fait pas partie de moi. Donc en réalité, j'ai une laisse en main avec une fille, avec une ex-compagne au bout, et une cravache dans l'autre main. Je sais ce que je dois faire, mais au fond de moi...
Ouais, tu rigoles, quoi.
Ouais, je rigole. Et j'ai même été quasiment étouffé dans un vagin, dans une forme de sadomasochisme maîtresse, esclave, ou entre les seins d'une autre fille. Et parce qu'en fait, j'ai accepté ça parce que, d'une, j'ai pas de problème avec la douleur, je suis pas sensible trop à la douleur. Donc j'ai déjà eu des filles qui m'ont griffé au sang dans le dos, qui m'ont mordu quasiment au sang dans le cou. Et en plus, parce que moi, je me dis, bon, on sait jamais, peut-être que ça peut être sympa. Alors qu'au fond, je me retrouvais avec un bleu énorme dans le cou.
Mais du coup, quand tu as ces pratiques-là, à aucun moment, toi, ça t'excite, en fait. C'est vraiment, tu le fais de façon, comme tu dis, avec distance et un peu en tant que spectateur, en mode...
C'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté mécanique. En fait, je pense que je suis excité par le plaisir de l'autre. On va dire tout simplement que la pénétration, pour moi, par exemple, c'est pas quelque chose qui me donne le maximum de plaisir. D'accord. C'est pas un truc... tout simplement, même mon pénis n'est pas un endroit qui va être particulièrement très, très sensible.
D'accord.
Je suis presque une horreur pour, par exemple, un partenaire ou une partenaire qui veut me faire une fellation. En réalité, si elle prend pas le temps de découvrir mon corps correctement, bah, elle peut passer trois quarts d'heure, je vais m'arranger à la fin pour, dans ma tête, me dire, bon, faut que ça vienne, pour pas qu'elle se sente mal, mais en fait...
Trois quarts d'heure, hein, quand même.
Mais c'est déjà arrivé, et en fait, c'est juste que je ressens pas énormément d'innervation à cet endroit.
D'accord.
Et le gland, par exemple, me fait mal, parce que il est très sensible, j'ai une circoncision, et il a, peut-être pour d'autres non, mais pour chez moi, ça a créé une sensibilité, soit je ressens rien, soit ça me fait mal.
Donc, ah ouais, c'est... effectivement.
Et donc, par exemple, chez moi, c'est les tétons, c'est moi, pour moi, c'est genre le on-off. C'est simple, c'est quelqu'un qui m'embrasse et que j'aime, enfin, à qui je suis vraiment bien et qui me lèche les tétons, c'est...
Ça y est, nirvana.
Ah ouais, c'est nirvana, en fait. Dans ces pratiques autres que j'ai pu avoir, en réalité, j'avais pas particulièrement de plaisir. C'est-à-dire que je savais ce que je devais faire. C'est assez cartésien, en fait, dans ma tête. Je savais ce qu'il fallait simuler.
Oui, il y a un mode d'emploi, quoi.
Il y a un mode d'emploi, même dans la simulation. Je trouve qu'on a... Ce qui est vrai, sûrement, on le sait très bien que dans un contexte hétéro, il y a beaucoup de femmes qui simulent et ou qui n'arrivent pas à l'orgasme facilement, alors que dans un contexte de relations homosexuelles, elles y arrivent beaucoup plus facilement, parce que les hommes ne prennent pas le temps d'apprendre le corps.
Il y a des études comme ça qui disent que les lesbiennes, en tout cas la sexualité des lesbiennes est beaucoup plus épanouie que la sexualité hétéro.
Alors qu'elles passent beaucoup moins par une sexualité pénétrative, donc ça veut tout dire, mais je sais que au final, un homme aussi peut simuler. Je pense qu'on sous-estime la capacité de l'homme à simuler.
Non, mais tu as tout à fait raison. Bien sûr, les hommes peuvent simuler. Et puis, beaucoup d'hommes vont avoir une éjaculation et ce n'est pas réellement un orgasme.
Ah,
et
oui.
À contrario, tu peux avoir un orgasme sans éjaculer.
Oui, très clairement. Moi, je sais que des fois, je prends beaucoup plus de plaisir pendant l'acte que dans l'éjaculation. En fait, on va dire que j'ai eu un orgasme, peut-être qu'on appelle tantrique ou prostatique, même sans passer par la prostate, une fois dans ma vie. J'ai pas éjaculé, c'était tellement fort que j'en ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tellement c'était fort, tout simplement. Parce que je considère que j'ai une sexualité, entre guillemets, ma vie sexuelle n'a pas été lambda, mais la sexualité que j'aime, en réalité, je suis assez pour le fait qu'on n'est pas obligé d'aller dans des trucs extrêmes des fois. Il y a certaines personnes qui aiment le classicisme.
Bien sûr.
Si j'ai rien contre un doigt, j'ai aucun problème avec l'anus chez les hommes. Si un jour une fille veut essayer de me pénétrer avec un god, je m'en fous, j'ai déjà essayé tout seul. Puis je considère que je suis assez pansexuel, je suis pas fermé au fait qu'un jour dans ma vie je puisse être amoureux d'un homme.
Oui, bien sûr, puis surtout une pratique n'est pas une sexualité. Donc,
c'est exactement ça.
Bien sûr. Et on a un peu digressé. Donc t'es au collège, tu as cette première histoire avec cette jeune fille. Tu vas arriver puisque t'as un an d'avance, donc fin de collège, début de lycée. Tu es donc actif. Les copains, j'imagine, te rejoignent un peu dans cette dans les premières fois fin du collège.
Bah, ils viennent me voir en fait avec leur première fois, ce qui est assez étonnant et ce qui des fois met dans des situations un peu bizarres. Un ami qui est venu me voir pour me parler du fait qu'il avait eu une éjaculation précoce et que c'était pas la première fois que ça lui arrive. Et moi, je comprenais très bien ce qui se passait. Mais j'avais peut-être pas la maturité pour lui parler de ça, en fait. Alors qu'il y a plein de façons d'apprendre à gérer ça et de faire évoluer sa sexualité. Et puis, en vrai, si ça arrive, c'est pas autant pour autant que ça arrivera tout le temps.
Bien évidemment.
Mais après, c'est, je pense, chez l'homme, malheureusement, on reste quand même un côté très...
Performance.
Moi, je sais que c'est horrible, mais je me suis conditionné depuis le plus jeune âge à la première chose que je dis quand j'éjacule, c'est « désolé ». C'est horrible. Et aujourd'hui, je sais qu'une fois qu'on me connaît, ma copine va rien me dire. Elle sait que je suis comme ça et elle sait que c'est pas... Et j'ai toujours... Et même si je sais que, par exemple, elle a pu avoir des orgasmes, la première chose que je me pose comme question, c'est est-ce qu'elle a eu des orgasmes? Est-ce qu'elle a eu du plaisir?
T'es en couple mais avec ta compagne, mais même avec tes compagnes précédentes. C'est une fin en soi d'avoir un orgasme.
Alors, en soi, en fait, je dirais que y a le côté de moi qui est lié à mon passé, qui n'est pas encore complètement déconstruit et qui me fait dire que je ne suis pas assez bien et donc qui a peur que la personne n'ait pas trouvé son compte, en fait, si elle n'a pas eu d'orgasme, alors que la part de moi qui est déconstruite considère que la pénétration n'est pas une fin en soi, que moi, si je n'ai pas d'orgasme, j'en ai rien à faire et que si je n'éjacule pas, j'en ai rien à faire du tout, que je suis bien plus excité par embrasser la personne avec qui je suis que par l'acte en lui-même. Et donc, en fait, je comprends très bien, on va dire intellectuellement, que c'est pas utile. Mais parfois, l'émotion n'est pas rationnelle, va prendre le dessus, en fait, là-dessus, et va m'empêcher de rationaliser le fait qu'en fait, ce que je suis en train de penser, c'est du bullshit, et que ça sert à rien, et que même des fois, un quickie qui dure 2 minutes dans la cuisine, juste comme ça, où tout d'un coup, on se rhabille, et c'était cool, et c'était super, et on s'en fout qu'on soit arrivé au bout ou pas, ou si on a...
C'est ce que j'allais te dire, c'est que parfois aussi, ta partenaire, pour 1000 raisons, le projet, c'était pas forcément d'avoir l'orgasme de l'année.
C'était juste de partager un moment, quoi. Mais après, je pense que le fait que, par exemple, ma première relation, quand elle m'a trompé, moi, je sais que ça fait partie de moi. Je ne parlerai jamais d'une de mes ex-compagnes ou de mes ex... Enfin, sex-friends, ce genre de choses, de comment elle est au lit. Pour moi, ça se dit pas, en fait. Parce que, pour moi, une personne n'est jamais mauvaise. Elle est juste pas adaptée à nous.
Ah, tu veux dire bon coup, mauvais coup?
Ouais, par exemple, oui, pour faire plus trivial, il n'y a pas de bon coup, mauvais coup. Il y a juste
toujours le mauvais coup de quelqu'un et le bon coup d'un autre. Moi, ça, c'est, je le dis. Et comment, d'ailleurs, comment on sait que quelqu'un va être un bon coup?
Moi, je pense qu'on ne sait pas.
Alors, tu sais, moi, je ne sais pas du tout si ça marche, donc chacun va essayer. Mais toi qui es très dans la sensation, etc. En fait, quand tu es avec une personne avec qui, c'est peut-être un peu, il y a une petite tension, etc. Parce que moi, je pense comme toi, la chimie des corps, elle parle avant tout. Et paraît-il que quand on se touche les avant-bras, qui est une zone hypersensible, les gens qui vont être compatibles sexuellement, ils ont une forme de décharge d'électricité. Et si ça fait rien, c'est que ça va pas être ouf au pieu. Voilà.
D'accord. J'essaierai.
Ce que vous voulez de cette information. Mais ça peut être rigolo de le faire avec des partenaires avec qui ça marche bien pour voir si c'est vrai. Ok, donc là, tu es de fin de collège, ça y est, les copains arrivent et tout ça. Tu vas arriver au lycée. Comment ça se passe au lycée?
Alors, en fait, juste dans ma période lycée-collège, entre collège et lycée, il y avait une fille. Alors, c'est un peu genre... Moi, j'ai toujours été le mec que les filles massent pas, par exemple, quand j'étais en primaire, au collège. J'ai jamais été le beau gosse. Enfin, moi, je veux dire, la mode, c'était plutôt le rap. Et moi, j'avais des bracelets en pique avec des t-shirts Monson. Et même, on va dire, j'ai pas une beauté stéréotypée. Et puis, je suis pas attiré du tout par les beautés stéréotypées.
Il y a une podcasteuse comédienne que j'adore, Sophie Marie Laroui, qui dit souvent « Je suis une beauté de niche
». Voilà, moi, je suis une beauté de niche. Et donc, il y avait une fille, quand j'avais 15, qui avait 18 ans, et tous mes copains... qui était même à 15 ans musclé, sportif, un peu mat de peau, super, super beau gosse. Ils étaient à fond dessus. Et en fait, cette fille a été un coup de foudre sur moi. Alors, avec du recul, je pense qu'elle était fétichiste de mes cheveux.
Ah, d'accord. Mais
parce que j'avais des grands cheveux.
Elle était en terminale, c'est ça?
Elle était en terminale et moi, j'étais en troisième. Je l'ai rencontrée par des amis, en fait. Et elle était... c'était aussi... en fait, elle était vietnamienne. Or, c'était très compliqué parce qu'on pouvait jamais se voir quand il y avait ses parents ou sa famille parce que c'était très communautaire et donc il fallait pas sortir avec un blanc, en fait. Elle a eu un coup de cœur sur moi et j'ai eu, aujourd'hui avec malheur, elle avait une sexualité qui était trop pornographique pour moi. Trop. Alors, j'avais 15 ans. Donc, dans ma tête, ça fait... c'est comme si j'avais fait une liste où je mettais check, c'est fait. Check, c'est fait.
Ah ouais.
Check, c'est fait. C'est-à-dire que j'ai fait ma première ma première éjaculation faciale. Okay. Et c'est pas moi qui le voulais, enfin, c'est elle qui fait « avant d'éjaculer, viens, je veux goûter, en avoir sur le visage », ou elle parlait très crûment. Très très crûment, ou vas-y, fais-moi mal, je veux te sentir, ou ce genre de choses. C'était des choses, je pense, avec du recul, même si j'étais actif sexuellement depuis déjà 4 ans,
ouais.
Je pense que j'avais pas envie. Puis sur certains comportements, maintenant avec du recul, elle avait manqué pour elle-même d'amour propre, en fait. Quand on s'est séparé, elle a essayé de me récupérer en me faisant une fellation.
Ah ouais.
Et moi, en fait, ça m'a mis mal, même à l'époque, c'est-à-dire que. Je la trouve, c'est quelqu'un de gentil. Enfin, aucune de mes compagnes que j'ai pu avoir, même qui m'ont trompé, je considère que c'est des mauvaises personnes. Moi-même, j'étais quelqu'un de paumé dans ma vie, ça m'est déjà arrivé de tromper. Des gens m'ont trompé, et c'est pas grave. Je veux dire, on s'en remet, et c'est pas beau, mais la vie, c'est pas beau toujours.
Oui, c'est ça. Donc, t'as cette relation avec cette fille.
Oui. Et après, on s'est séparés, et je rencontre quelqu'un avec qui j'ai eu une relation de 2 ans et demi. Alors souvent, en fait, j'ai eu assez des longues relations dans ma vie. J'ai eu quand même, on va dire, si on parle en termes de normes, beaucoup de partenaires dans ma vie. Ouais. Mais souvent, c'était sur un espace très court. C'est-à-dire que je vais
c'est
être
quoi,
assez...
C'est quoi beaucoup ?
Un peu plus d'une centaine. Souvent, j'ai eu des relations assez longues. Et c'est dans les petites périodes entre... Où,
que t'as enchaîné.
Et ça fait que c'est souvent sur des petites périodes de 3-4 mois où je suis pas en couple. Où ça... 3, 4, 5, 6 personnes... dans les 3-4 mois.
D'accord.
Voilà.
Okay,
et donc j'ai eu une relation de 2 ans et avec quelqu'un, alors c'était étonnant, qui pendant 2 ans ne m'a jamais touché.
Pardon.
Alors en fait on avait des relations sexuelles, mais elle ne m'a jamais touché manuellement ou avec la bouche le sexe. Et en fait ça me gênait pas, j'y pensais pas trop, je me dis bon bah si elle aime pas...
Elle a jamais touché ton sexe.
Quasiment pas. Ça a dû arriver en 2 fois en 2 ans. Et par contre, il fallait la dernière fois qu'on ait une relation ensemble pour que là, tout d'un coup, toutes les limites passent. C'était notre fin de couple. Et tout d'un coup, on est passé par la relation anale. On est passé par la fellation dans la même fois. Il y a eu tout d'un coup. Et là,
mais
c'était
Tu sais pourquoi elle n'a jamais voulu toucher ton sexe ?
Elle, j'étais son premier. Et donc, en fait, aussi de ce côté-là, on a attendu 4-5 mois avant de le faire, alors que moi, j'étais déjà actif sexuellement. Mais ça, moi, ça ne me pose aucun souci. Enfin, elle avait peut-être pas encore construit sa sexualité du tout, en fait.
D'accord. Ah non, mais bien sûr, mais c'est vrai que ça peut être surprenant que naturellement, ou en tout cas instinctivement, tu ne vas pas toucher le sexe de ton partenaire.
Oui, alors que moi, je le faisais.
Oui, mais c'est pour ça que je me posais la question, est-ce que tu vois, elle a
je crois que par contre, la fellation, elle avait pas envie vraiment, du tout.
Oui, ça, à la limite...
Ce que je comprends,
Je veux dire, qui peux l'entendre.
Moi, je peux entendre que quelqu'un me dise « j'ai pas envie d'avoir un pénis dans la bouche », quoi, enfin... Il n'y a pas de souci. Je veux dire.
Donc, tu as cette relation-là avec cette jeune fille. Donc, là, tu arrives à peu près fin de lycée.
Oui, et donc j'ai dû mettre de côté beaucoup de. Alors, ça a été un peu compliqué parce que pendant le lycée, en fait, cette relation était à distance. Je pense qu'à distance, parfois, on se maintient dans une forme de train-train. C'est-à-dire que moi, toutes les semaines, je faisais les allers-retours. Ça me faisait 11 heures de train tout le week-end en aller-retour. Alors qu'en fait, c'était juste vraiment nul. Réellement, avec du recul, et pour elle aussi, c'était pas sain. Et donc, je me suis rattrapé, en fait, dès qu'on s'est séparés. puis on commence à manquer un peu d'amour propre pour soi. C'est-à-dire qu'une fille essaye de nous bourrer la gueule pour qu'on couche avec elle.
Ouais, ça, c'est pas bien.
Non, alors déjà, moi, je considère que l'alcool... Alors, moi, j'aime pas coucher avec quelqu'un, à part si c'est ma partenaire et que tout d'un coup, on est tous les deux sous. Je coucherai jamais avec quelqu'un pour même une nuit si la personne est bourrée. Je peux pas, parce qu'en fait, j'aurais toujours l'impression... Est-ce qu'elle aurait eu le même consentement si elle avait pas été bourrée ?
Mais un peu pompette, ça passe, ou c'est vraiment...
Ouais, un peu pompette, ça passe, si je le suis
aussi.
Ah
ouais, parce que sinon, il y a beaucoup d'occasions où tu couches pas.
Ouais, non, je suis d'accord. Un peu
non,
pompette,
mais t'as
ça
raison,
va, mais...
Quelqu'un qui est raide bourré, bon, déjà, c'est pas agréable pour plein de raisons, tu vois, technique, où la personne est lourde et pas hyper en moyen de ses possessions. Et puis après, t'as raison, il y a quelque chose d'un peu plus éthique qui est effectivement le consentement.
Ah ouais, la question du consentement quand on est complètement, quand on est bourré, c'est une question qui se pose pas assez.
Ah bah bien sûr, bien sûr.
Puis en plus techniquement, moi quand je suis bourré, je pende pas. Je crois que c'est Blanche Gardin qui a un de ses spectacles sur le fait que l'homme est vraiment complètement soumis au fait d'être dur.
Exactement, oui, c'est Blanche Gardin qui dit ça. Exactement. Et ce qu'elle dit est très juste. Elle dit que on lui demande quand même d'être, enfin tu vois, que tout est autour de son pénis, qui est quand même le seul organe qu'il ne peut pas maîtriser.
Mais oui, au même titre que ma première relation, après j'ai appris que cette personne avait dit que j'avais un petit pénis ou que j'étais pas bon au lit. Et moi je me suis jamais permis de dire ce que moi je pensais être la cause. C'est-à-dire que Un pénis, de toute façon, quelle que soit la taille, qu'il soit moyen, moi je sais que, enfin, par exemple, moi c'est la moyenne, moi je suis moyen dans tout, ma taille, tout. C'est-à-dire ma taille entière, mes pieds, tout ce que je fais c'est moyen, et donc mon pénis ne pouvait pas être autre chose que moyen. Mais je veux dire, en termes de taille, mais on s'en fout, c'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, un homme ou une femme qui se moque de la taille d'un pénis de quelqu'un d'autre, ça serait pour moi comme se moquer, enfin, des doigts d'une personne, c'est-à-dire qu'en fait on ne choisit pas.
Bah bien sûr, on choisit c'est... pas, mais comme le physique, on choisit pas. Enfin, tu vois, c'est dramatique.
Pas. C'est dramatique parce qu'en fait, un pénis. Après, il y a certaines choses dans son physique qu'on peut modifier, mais le pénis. La vraie question, c'est de savoir comment adapter sa sexualité à son pénis. Moi, je sais qu'il est pas trop petit. J'ai toujours l'impression qu'il est trop petit, mais en vrai, je. Puis après, malgré tout, le vagin est un corps qui est en plus lié au périnée, donc une fille peut le contracter aussi. Donc elle peut réduire cette circonférence. Enfin, si on communique avec la personne, il suffit des fois de certaines toutes petites adaptations. Un coussin placé là, une main placée là, changer l'angle, changer machin. Enfin, en fait, juste être à l'écoute du corps de l'autre et en parler. Mais je pense que... Après, on en parlait un peu avant d'avoir commencé. C'est que notre génération de trentenaires jusqu'à 45, il y a des choses qu'on doit apprendre, en fait, vraiment. Parce que on n'est pas déconstruit. Je pense que c'est bien en même temps qu'on y arrive à cet âge-là, parce qu'on est au max... Enfin...
Ok, donc pour reprendre un peu la chronologie, tu es au lycée, fin de lycée, tu vas commencer tes études. Comment tu te situes là au niveau de ta sexualité ?
Au vu de toutes les relations que j'ai eues avant, je suis vraiment dans une sexualité que je subis, en fait. Okay. Vraiment, je
T'as
subis...
T'as vraiment même... ce sentiment-là, quoi.
Et même encore aujourd'hui, ça m'est arrivé, il y a même pas longtemps, de me dire dans une relation, je subis la sexualité à ce moment-là, parce que je ne m'y retrouve pas.
Et tu en veux à tes partenaires à ce moment-là ou c'est
non, j'en veux jamais. Constat. Je pense que je constate, il y a un côté de moi qui a vraiment envie de la relation sexuelle, mais je sais que même ça peut m'arriver même d'être angoissé par la relation sexuelle parce qu'il y a un côté, est-ce que encore cette fois je vais trop penser en fait et ne pas vivre la chose et ne pas y retrouver de plaisir en fait réel. Les filles devraient plus parler des fois, je pense, à leur partenaire parce que comment on veut qu'un partenaire change sa pratique si les filles n'en parlent pas. Mais je pense que les hommes aussi devraient parler de leur plaisir et de comment ils ressentent les choses. Et parce que c'est pas inné, de toute façon. Enfin, et je pense que quand je suis arrivé dans mes études, je subissais vraiment ma sexualité. Je veux dire, je vivais ça pour le plaisir de l'autre entièrement. Alors vraiment complètement.
Et t'as des relations un peu marquantes pendant cette période ?
J'ai donc mon premier grand amour. Vraiment, alors que vraiment grand que je ressens comme, et pourtant ça n'a pas duré longtemps. Mais je considère comme vraiment
très intense.
Très intense et très clairement, j'étais tellement en manque d'estime de moi que j'ai eu tellement peur de ça que c'est moi qui l'ai quitté. Très bêtement, mais c'est elle avec laquelle que j'ai eu mon premier orgasme et mon seul orgasme sans éjaculation.
Ah oui, ok.
Et ça reste un moment très marquant. Puis en fait, après ces années-là, ce sont un peu. Enfin, j'ai eu ma. Par exemple, j'ai jamais eu de coup à trois, mais j'ai eu aussi ma première proposition de coup à trois.
Okay.
Et, mais en fait, ça m'a assez bêtement, mais ça m'attire pas. Je n'ai pas une sexualité où je me dis, est-ce que, en fait, moi, je me pose une question simple quand je vois une, je me dis pas, c'est pas bien ou c'est bien. Je me dis, est-ce que j'en ai envie?
Bien sûr, bah, c'est ce que tout le monde devrait faire.
Voilà.
En soi.
Et en fait,
et non,
pour l'instant,
et non faire
dans ma vie,
trucs pour faire, tu
pour
vois,
essayer
dire, ah
ou
ouais,
juste comme ça.
Ouais.
C'est... Voilà. Moi, je me suis dit, est-ce que j'en ai envie? C'était deux meilleures amies en plus, filles. Bah, en fait, je me suis dit, non, j'ai pas envie.
Mais c'est comme, tu vois, le plaisir prostatique, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, beaucoup en ce moment, etc. Et moi, j'aime bien rappeler que c'est cool si les gens, enfin, les hommes essaient avec leurs partenaires, etc. Mais c'est OK aussi si tu ne veux pas.
Oui, je suis tout à fait d'accord.
Vraiment, c'est hyper
et
important
même,
de le dire.
Il faudrait aussi même des fois... Enfin, moi, je sais que les deux premières fois où j'ai eu des relations anales avec une fille, c'est-à-dire où je pénétrais, j'avais pas envie. Et ça s'est très mal passé. C'est les filles qui m'ont demandé d'essayer. Et après, pendant longtemps, j'ai pas voulu réessayer parce que, enfin, mon premier essai, c'était à 14 ans. Enfin, je veux dire, c'est trop jeune. Ouais. Et c'était pas du tout préparé pour. Et donc, il a fallu attendre, si par exemple, dans mes années d'études, je suis tombé sur j'avais une sex friends où on se dit souvent, cet après-midi, tu viens faire des cookies. Et, donc, en réalité, on faisait vraiment des cookies. Mais après, ça allait
pendant
plus
qu'il était en train de cuire, c'était parfait le
timing. Ou pendant qu'on les mangeait. Mais donc c'est avec elle, par exemple, que j'ai redécouvert le plaisir anal. Et en plus, c'était par hasard, c'est-à-dire que elle avait, elle était énormément lubrifiée. Et à un moment, ça a glissé. Et vraiment, elle était sur moi et c'est rentré. Et on s'est regardé et elle m'a fait, on s'est regardé, elle fait ah, je fais ah, je lui demandais bah t'en penses quoi, bah j'aime bien, ok, bon on continue. Et en fait, ça m'a complètement.
Bien sûr, mais toutes les physiologies ne sont pas forcément faites pour. Et au-delà des physiologies, il y a aussi.
Un moment.
Comme tu dis, le moment, quoi. Exactement. Ouais. Là, c'était le moment, c'était cool, elle était open. Enfin, tu vois.
Et en plus, ce n'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on est obligé. Même si on a aimé, on n'est pas obligé de le refaire tout le temps.
Bien sûr.
Et sur moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé. Enfin, moi, je n'ai aucun problème avec ça. J'ai des filles qui m'ont mis un doigt. Et alors, en fait, le problème, c'est que je sais que je peux retrouver du plaisir là-dedans, mais je ne veux pas bander quand on me fait ça. Mon cerveau gère pas les deux informations et donc je débande complètement et donc ça fait qu'il y a un côté bon bah c'est sympa et en même temps j'en ai pas spécialement envie à chaque fois, c'est pas
ouais, mais c'est comme tu dis, il faut s'écouter quoi.
Après je lis pas du tout ça à l'homosexualité, donc en fait pour moi c'est juste si j'ai envie de ça je le fais, j'ai pas envie je le fais pas.
Donc tu passes ces années d'études. Tu as donc cette grande histoire d'amour qui va pas durer hyper longtemps.
Et j'ai la deuxième juste après, avant de partir aux États-Unis.
D'accord.
Qui, assez bizarrement, je pense qu'à ce moment-là, dans ma sexualité, j'étais pas assez bien dans ma peau. Parce que je rentrais vraiment dans le monde du sport. Et c'est un moment où dans ma peau, je me voyais un peu en dysmorphophobie complète. Et donc,
d'accord,
j'ai pas
tu te voyais quoi? Trop gros? Trop grand?
Trop, gros,
trop
toujours.
Petit? Trop,
non,
trop
toujours gros. Trop gros. C'est toujours... toujours trop gros. Et ça fait que j'ai pas de souvenir. Or, c'était une histoire d'amour fabuleuse. Hein, je veux dire, on avait des délires extraordinaires. En fait, on était vraiment en connivence sur plein de choses. On rigolait énormément. Mais sexuellement, j'en ai pas de souvenir à cause de ça. Parce que, en fait, je vivais tellement mal mon corps.
Ouais.
Et c'est triste. Parce que je pense que si j'avais vécu mon corps de façon. De bonne façon, je pense que ça aurait été génial.
Mais tu disais que t'as fait de la dysmorphophobie et donc une espèce de c'est quand on voit son corps qui n'est pas comme il est et donc tu te voyais beaucoup plus gros que tu ne l'étais. Pourtant tu me disais tout à l'heure que t'as eu des partenaires obèses.
Oui, et ça me pose aucun souci.
T'as un rapport
souci.
Au corps, ouais, c'est intéressant.
En fait, moi, mon corps, je pense que je le vois autrement qu'il est. Parce que j'ai pu voir l'humiliation sur des personnes très proches dans ma famille, très jeunes. Mais par contre, moi, j'ai toujours trouvé ces personnes qui étaient rondes, jolies, je veux dire, même belles. Et donc, par contre, le corps de l'autre peut être vraiment comme il veut.
Donc, c'est pas une grossophobie que tu as, c'est vraiment un rejet de ton corps à toi.
Ah, moi, je trouve qu'une femme ronde, une femme ronde ou un homme rond, ou une femme... Alors après, c'est une question de santé, mais... qui est anorexique, j'ai du mal parce que je le vois pas en santé. Et moi, ça me fait du mal pour l'autre, en fait.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Mais par contre, je vais pas trouver la personne genre « Ah non, elle est horrible !» Ou une personne... Enfin, j'ai déjà eu des relations avec des filles qui faisaient 100 kilos. Non, mais en vrai, ça m'est égal. Enfin, je veux dire, moi, je la trouvais belle. Et puis, je trouve qu'un corps est pas lié... Une personne peut être, entre guillemets, de façon normée, un corps parfait. Alors, ce que je trouve en plus nul, hein. Moi souvent ces corps-là, je les trouve. Un corps avec des quelques imperfections, c'est quand même plus joli. Mais ce qu'on appelle imperfection, ce qui n'en est pas en plus.
Tu as toutes ces expériences-là que tu multiplies. Oui. Tu vas partir aux États-Unis après, donc faire ces 6 mois un peu de retraite, ouais, malgré
mois,
toi.
9 mois même, ouais.
Mais voilà, c'est 9 mois.
Ouais. Et en fait, dans ces périodes-là, aucune masturbation, même, ça ne me venait même pas à l'esprit.
Ouais, d'ailleurs, j'allais te poser la question, c'est quoi ton rapport à la masturbation ?
Alors, je pense que du fait que j'ai une sexualité très jeune et en plus qui s'est très vite... j'ai eu des périodes où j'étais assez accro de la branlette, comme on appelle, hein. C'est-à-dire assez jeune. Mais aujourd'hui, par exemple, j'ai un rapport qui est assez simple, c'est il va y avoir des périodes, genre 2-3 jours où je sens que j'en ai plus besoin. Moi, je dis toujours, je veux me vider.
Okay, c'est ça.
C'est juste je sens physiquement ou comme s'il y avait quelque chose un peu d'hormonal.
Oui,
que
un
là,
peu,
j'ai
c'est
besoin
un peu
de...
ça tend un peu, c'est un peu douloureux et tu vides quoi.
Ouais, ou moi j'ai tendance aux insomnies par exemple. Si vraiment il n'y a rien qui marche, je vais masturber, ça va me relaxer un petit coup et hop, c'est fini quoi.
Dodo.
Ou si je sais que je n'ai pas vu la personne avec qui je suis à un moment, pendant un mois, une semaine ou ce genre de choses, je me dis bon, je vais le faire, comme ça la prochaine fois qu'on se voit, si on a une relation. J'ai moins de risques.
Ouais, je comprends.
Et donc, en fait, quand je le fais, si j'ai envie, au bout de 20 secondes, ou 10 secondes, c'est fait et je peux aller faire autre chose.
Rapide.
Ouais, oui, quand il faut, réellement.
Et donc, tu rentres des États-Unis. Comment ça va se passer, là, dans ta vie?
Et donc, je vais m'installer chez mon meilleur ami qui vivait en coloc avec une ex à moi et qui j'étais resté en bon terme.
Ouais.
Et je me remets avec cette ex.
Ok.
qui. Alors, pour le coup, j'ai tendance. Alors, même si j'ai eu pas mal de partenaires, j'ai pas non plus un appétit sexuel énorme. J'ai pas le besoin. Et elle avait, pour... et c'est pas du tout un jugement, avait un appétit trop important pour moi.
Elle avait une forte libido.
Ouais, une très forte libido. Et moi, je sais que. Il y a un moment, même si j'aime bien, je peux. C'est un peu le cas dans ma vie, en fait. Je peux. Si j'adore quelque chose, c'est cool, mais je peux me lasser. Si c'est trop souvent, je peux me lasser de toute chose. Et vu que j'ai pas une libido énorme, ben, elle, c'était trop souvent et trop. C'est-à-dire trop. Enfin, j'ai besoin d'autre chose, en fait. Ou vraiment, pour être excité, j'ai besoin d'avoir passé une bonne soirée.
Oui, t'as, des moments un coup, de pas... t'as besoin d'un contexte et d'un environnement, quoi.
Ouais, très clairement. Et donc, ça, c'était pas super. Et puis, c'est à ce moment-là, juste après, que j'ai commencé à avoir des rencontres... un peu improbable dans ma vie, où j'ai eu mon premier accès vraiment au sadomasochisme. Léger, okay. Hein, mais malgré tout...
Comment c'est arrivé, ça, dans ta vie?
J'ai rencontré quelqu'un sur Tinder.
Ouais, donc t'étais avec cette fille, mais t'étais sur Tinder quand
non,
même.
Non, après, non, on s'est séparés, et je me suis mis sur un site de rencontre. C'est une fille avec qui j'ai encore des très bons rapports aujourd'hui, qui est adorable. On s'est rencontrés, on a passé une bonne journée, et on... la première fois qu'on a eu ce rapport, des rapports sexuels, j'avais pas entrevu ça du tout. C'est-à-dire que j'avais compris.
T'étais consentant là, ou un peu comme à l'aune de ce que tu racontes, t'étais.
En fait, mon problème, c'est que j'ai un genre de consentement par par omission. Parce que en fait, étant donné que j'ai toujours peur de, j'ai eu beaucoup longtemps, même encore à ce moment-là, peur de dire non à un truc. Je dis bon, moi, en fait, c'est un peu le côté, ça me coûte rien si ça lui fait plaisir. Je peux le faire, et en fait, on s'y perd. En réalité, on s'y perd énormément à faire ça. Parce qu'il y a un moment, on oublie ce qu'on est. Et donc, j'avais compris la première fois qu'on a une relation sexuelle qu'elle aimait beaucoup, comment dire, en fait, elle aimait être soumise et qu'on lui parle assez mal. Et
d'accord.
En plus, moi, je suis quelqu'un qui déteste la vulgarité. Ou ça me fait rire, mais parce que j'ai l'impression que c'est un jeu, c'est-à-dire que j'en rigole. Et donc, elle me demandait réellement de la traiter comme une chienne.
D'accord, donc toi, tu étais le maître, elle était la soumise.
Ouais, et elle me disait « je suis ta salope » ou ce genre de choses. Et moi, dans ma tête, c'était... En fait, j'ai beaucoup de mal avec la violence, même physique. C'est quelque chose qui, chez moi, peut me fait peur, quasiment. Elle aimait que je lui tire les cheveux, que je l'étrangle quasiment pour arriver à l'orgasme, ou ce genre de choses. Et en fait, je ne m'y retrouvais pas du tout. Et donc, c'est comme si j'étais dans un coin de la pièce... Et que je regardais ce qui se passait. Vraiment, enfin.
Ça doit être très bizarre, comme.
Après, quand on a eu l'habitude de le vivre, parce que c'était pas la première fois, c'était comme si c'était encore. Bon, c'est une autre expérience, mais c'est un peu le résumé de ma sexualité.
Pas foufou, quoi. Ouais,
non, puis après, elle a commencé à me sortir le fouet, la cravache et la laisse.
Ah ouais.
Et en fait, moi, ce qui me fait mal, c'est que j'ai pas de. Comment dire, j'ai pas d'a priori, mais malheureusement, les personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai eu des relations sexuelles, qui avaient ce genre de... Il y a des gens qui ont eu le SM et qui n'ont pas du tout ce passé-là, mais les filles que j'ai pu rencontrer dans ma vie, donc je ne vais pas en faire une généralisation, qui ont eu des comportements de ce type-là, à vouloir être soumises, ou qui aimaient vraiment ce type de comportement-là, malheureusement, je suis tombé sur des âmes cassées. Alors vraiment, moi, ça ne me correspond pas, et étant donné que c'est des personnes qui ont un rapport à la violence qui est différent du mien, ce que je pouvais essayer d'amener, c'était de la douceur.
Ouais,
mais elles n'arrivaient pas à accepter aussi la douceur.
Et ouais, moi, ça me rendait. Le terreau, c'est compliqué. Ouais.
Et ça me rendait hyper triste parce qu'en fait, le rapport sexuel se devait de se faire dans la violence et dans la soumission.
Constamment, je veux dire, il y avait
quasiment constamment.
De... Ah, ouais.
Très rarement dans la douceur. Alors qu'après, une fois sorti du contexte sexuel, ça pouvait être des personnes hyper douces, hyper câlins. Moi, une fois que j'avais la fille, très clairement, ce qui se passait, c'est que j'avais la fille au bout de la laisse. Je savais très bien ce qu'il fallait que je fasse faire. Moi, j'aime bien dire que des fois, dans ma vie, j'ai des moments 16/9. C'est-à-dire que pour mieux vivre certains moments, le mieux, c'est de mettre des bandes noires.
Voilà, si c'est pas ton truc, c'est pas tes kings, c'est pas ton machin, et que t'arrives pas à mettre ton mental dedans, et que ton mental, il est
exactement.
En retenu... Oh, bah ouais, effectivement, c'est, ça devient un peu...
C'est même des moments longs, en fait. C'est des moments assez longs. Et je m'en veux presque envers ces personnes-là, dans le principe où j'ai pas eu la force de leur dire... Arrête, parce qu'en fait, moi, je suis pas ça. Et je pense que je peux m'en vouloir envers elle parce qu'en fait, c'est aussi une forme. Je pense que c'est une forme de mensonge de ce qu'on est.
La blessure de rejet qu'elles auraient pu ressentir après ça, ça aurait été peut-être plus dramatique que les quelques fois où tu as joué.
J'ai joué le jeu.
Joué le jeu, bon voilà. Mais effectivement, tu vois, dire à une fille qui est déjà apparemment déjà fragilisée par un terrain compliqué, si tu la rejettes, ou en tout cas que tu lui expliques que sa sexualité, elle est un peu border. Peut-être que les séquelles seraient plus graves, tu vois. Donc, peut-être.
Oui, très clairement.
Tu l'as fait, je pense, avec ton instinct. Donc, voilà. OK.
Oui, très clairement.
Donc là, t'arrives, t'as à peu près quel âge? T'en es où?
Alors là, j'ai 24, 25 ans. J'habite à Lyon. Donc, je suis préparateur physique. Et donc, en plus, c'est un moment où, en fait, j'ai rencontré après, entre guillemets, ma première MILF, vraiment. Ouais, donc en fait, j'étais...
Donc comme tu es très forte en calcul, elle avait 46 ans.
Oui.
Ouais, je sais. J'impressionne beaucoup. 46 ans, t'en avais 25, quoi.
C'était au moment, avant que je devienne professionnel, j'étais en stage pour mes études, pour être préparateur physique. Et elle, en fait, c'était ma chargée de stage officieuse.
D'accord.
Et un jour, elle a appris que je me séparais, elle m'a demandé directement mon Facebook.
Okay.
Et une semaine après, elle me demandait d'aller boire un verre. Puis on a commencé une relation... pour un an et demi, avec où elle avait des enfants, un garçon de 14 ans et une fille de 11 ans, quand moi j'avais 25 ans, donc c'était...
Ouais.
C'est marrant parce qu'on a, je pense, des fois, en plus j'en parlais aujourd'hui avec des amis, c'est qu'on fait souvent, malgré nous, je pense, le fait que quelqu'un soit âgé devrait être synonyme de maturité, ce qui n'est, en vrai, n'a aucun rapport. Parce qu'en fait, ça dépend de son vécu et les gens peuvent avoir des faiblesses qui sont liées à leur vécu.
Comment ça se fait? Alors, bon, déjà, Facebook, le terrain privilégié des MILF, il faut bien le savoir. mais comment elle te fait rentrer dans sa vie? Elle est mariée, elle s'ennuie, elle est...
Alors non, elle n'est pas mariée, elle était séparée.
Ah, d'accord.
Elle vivait seule avec ses deux enfants.
Donc, t'as pas été l'amant caché?
Non, du tout, du tout. Par contre, j'ai été la personne petit jeune qu'elle a eu du mal à assumer, quoi.
D'accord, oui.
Parce qu'il y a le regard des autres, alors que, je veux dire, elle avait 45 ans. Moi, quand j'avais 25 ans, je paraissais, même si aujourd'hui je parais des fois plus jeune que mon âge, à l'époque, quand j'avais 25 ans, j'en paraissais entre 30 et 35. Elle, elle était coach depuis 25 ans.
Oui, donc elle avait une condition physique plutôt.
Puis même au niveau du visage, elle paraissait entre 35 et 40. Mais dans sa tête, elle savait. On avait 20 ans d'écart, mais dans sa tête, elle avait l'impression, aux yeux du regard des autres, que c'était problématique.
T'étais amoureux d'elle?
Ah, la question de l'amour dans la vie. Il y a différentes formes d'amour. Voilà, je vais être touché en bas. Non, non, et je pense que des fois, on a des amours tellement profonds qu'on arrive, ça relativise qu'on a pu être amoureux. Mais en fait, on peut être amoureux de différentes façons. J'ai ressenti de l'amour et énormément d'attachement pour ces personnes-là. Et je pense même que des fois, j'ai eu des relations très, très courtes, deux, trois jours, où je pense que j'offrais vraiment de l'amour à la personne.
Mmh.
En fait, je vois ça comme ça, c'est plutôt ça. Et donc, je dirais que oui, j'étais vraiment très bien avec elle et à l'époque amoureux. Après, finalement, la pression des gens, le regard des autres, ça a été beaucoup de choses qui ont pesé dans le fait qu'on se soit séparés.
D'accord.
Mais ça a été une expérience comme une autre. Et puis.
Et donc, du coup, vous vous séparez. Vous avez une sexualité comment, tous les deux?
En fait, j'ai l'impression que ma sexualité, assez bizarrement, est toujours assez, pas simple, mais étant donné que je me suis adapté. À l'époque, aujourd'hui, je suis énormément plutôt axé sur la zététique, l'art du doute et tout ça, mais on avait une sexualité qui était aussi liée un peu à l'époque où moi je sortais des arts martiaux liés à l'énergétique, au reiki, à la médecine chinoise. Donc aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul là-dessus, sans dire que ça existe ou pas, mais que aujourd'hui j'ai moins de raisons de croire à tout ça que par le passé. Mais donc on avait une sexualité en même temps où on n'était pas obligatoirement toujours à avoir une sexualité très forte. Mais qui était quand même assez intense, je trouve, quand on le faisait. Et on essayait vraiment de se connecter d'une certaine façon. Je trouvais ça plutôt intéressant, hein, mais... Puis j'ai encore eu, après, dans ma vie, d'autres personnes à qui c'était porté sur l'énergétique et ce genre de choses.
T'arrives donc à peu près à... Même si je pense que t'as eu d'autres expériences, etc. Mais t'arrives à peu près à... Comment t'arrives à la définir, ta sexualité?
Alors, aujourd'hui, je la définis... Je dirais que dans ma vie, ça a toujours été... Ma sexualité a été une histoire de construction et de reconstruction et de déconstruction. Et, je suis quelqu'un avec qui c'est très bien, Mais à cause de mon estime de moi, plus tard, quand je suis avec une autre personne, ben, je m'oublie. Et je dois reconstruire le fait d'avoir une estime de moi et de pouvoir accepter que la personne, je puisse aussi prendre du plaisir. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai une sexualité qui est... En fait, qui est cool. Moi, je dirais qu'elle est cool. C'est-à-dire qu'elle répond à ce que moi, j'aime. C'est-à-dire, je suis avec quelqu'un, oh, c'est assez bête, mais aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un avec qui, assez bêtement, on va dire que c'est très... Enfin, c'est pas hétéronormé, mais on est, par exemple, j'ai déjà essayé le polyamour par le passé, de la relation libre, et ça me convient pas. Moi, ce qui est intéressant de me dire, c'est le poly. Je considère que quoi qu'on fasse, faut savoir est-ce que ça nous convient ou pas. Il y a aucune chose qui est naturelle. Si on n'est pas fait pour la relation libre, on n'est pas obligé. Si on n'est pas fait pour le polyamour, on n'est pas obligé. Aujourd'hui, je sais que j'aime le. Je suis assez mono-amoureux. Et si je suis bien avec quelqu'un, qu'intellectuellement c'est cool, qu'on est avec la personne avec qui je suis actuellement, on aime bien parler de. Être amant et partenaire en même temps. Parce que c'est souvent ça qui manque. Des fois, on est très bien partenaire, mais pas bien amant. Des fois, on est amant, mais pas très bon partenaire dans la vie.
C'est hyper précieux et rare, hein, ce
dont tu parles. Et là, aujourd'hui, je trouve qu'on peut parler de tout. On écoute des podcasts ensemble. On parle de... Et en même temps, réellement, d'un point de vue sexuel, je veux dire, c'est... on a envie, on fait. Si elle a envie d'essayer quelque chose un jour, je sais que je lui dirai pas non, on en parlera. Et si ça convient pas l'un à l'autre, on en parlera aussi. Et en plus, j'ai eu un couple de parents qui m'ont donné tout ce qu'il faut pas être dans la vie et que j'ai pas envie de recréer. Mais autant, j'ai aussi un côté assez romantique où je vois que j'ai eu des grands-parents qui, pendant 60 ans, se sont regardés comme des gamins jusqu'à la mort de mon grand-père, c'est-à-dire comme des enfants amoureux comme le premier jour.
C'est beau, avec ça,
d'avoir
eu ça.
Avec des gestes aussi tendres que le premier jour. Ça me fait que, pour moi, c'est possible. Et si on a envie, on ne devrait pas se sentir jugé du fait d'avoir une relation, en fait, classique.
C'est-à-dire, bien sûr.
C'est pas parce qu'il y a aujourd'hui des fois... C'est quasiment devenu presque une injonction dans certains milieux, devoir essayer, pour essayer, alors qu'en réalité, on devrait pouvoir se dire, mais en fait, j'en ai pas besoin.
Et c'est pour ça que... On ressent pas le besoin ou pas l'envie, et c'est OK, quoi.
Et comme le fait qu'une personne... Autant moi, j'ai eu plus de 100 partenaires un peu dans ma vie, autant je trouve qu'une personne qui a eu une partenaire dans sa vie et qui ressent pas le besoin d'essayer avec quelqu'un d'autre, je trouve ça fabuleux. Je trouve ça merveilleux, moi. C'est-à-dire que la personne est tellement bien... qu'elle n'a même pas la nécessité de se demander « Est-ce que j'ai besoin d'autres partenaires ?» Parce qu'en fait, on a toujours... Après, je pense que c'est lié à une société aussi aujourd'hui où autant c'est bien parce qu'on déconstruit beaucoup de choses dans les rapports entre personnes, entre hommes et femmes. Mais aussi, on est dans une société où on a toujours l'impression que ça peut être facile de trouver mieux. Et que ça peut toujours être mieux autre part.
Bien sûr, c'est vrai.
Et ça fait que des fois, on ne voit juste pas que ce qu'on a, ça peut être ce qu'il y a de mieux.
Carrément.
Pour nous. Peut-être pas pour les autres, peut-être que les autres vont la trouver cette personne pas jolie, peut-être que pour les autres c'est pas le meilleur coup, mais que pour nous-mêmes ça peut être juste le meilleur coup de notre vie en fait.
Tout à fait, non mais tout ce que tu dis est très juste et c'est vrai qu'on est dans une société où comme on voit et en plus les images notamment sur les réseaux sociaux etc. sont très tronquées, oui. On a tendance à comparer l'incomparable. Toujours. Quoi, donc ouais c'est compliqué.
Tinder c'est exactement, ça peut être un objet génial pour des personnes timides, mais c'est aussi tout ce qui est dans notre société un problème sur certains aspects.
Bien sûr.
Parce que c'est créé pour ça, c'est créé pour pas qu'on se désinscrive et qu'on suit pas, qu'on continue à toujours vouloir. Et qu'est-ce que ça va être la personne après ? Ouais, moi je trouvais ça assez génial. Il y avait c'est Arte qui a fait des reportages sur la dopamine. Et il y a les petits reportages sur Tinder et qui montrent quels sont les mécanismes. Bon après c'est des tout petits reportages, donc il faudrait pousser ça plus loin. Mais c'est vraiment des mécanismes qui sont faits pour qu'on ait envie d'être accro à ça. Et je suis pas sûr qu'on devrait être accro à la rencontre.
Non, c'est sûr. Puis c'est même pas tellement la rencontre, c'est l'ego boost de se dire qu'on match ou pas, tu vois. Donc c'est même pas tellement la rencontre, quoi. Qu'est-ce que tu te souhaites pour justement ton futur ? Parce que là, malgré une sexualité donc que tu as depuis 20 ans.
Ouais.
Presque 21 ans. Qu'est-ce que tu te souhaites dans les 20 prochaines années ? Tu n'auras que 50 ans, donc tu en auras encore sous le pied. Mais qu'est-ce que tu as envie de faire ? Parce que là, effectivement, on entend bien que ton chemin, il est quand même très nourri, très enrichi et puis surtout en perpétuelle réflexion. Qu'est-ce que tu imagines pour la suite ?
Alors, j'imagine dans les 10-20 prochaines années, enfin, j'espère un peu avant, mais j'essaie de travailler dessus parce que. Je pense que des fois, on a beau connaître toute la théorie, la pratique est plus compliquée dans la déconstruction. En réalité, aujourd'hui, je dirais que j'espère ne plus faire peser en fait sur la personne avec qui je suis mon inconfort de moi-même. Et donc, en fait, ce que je me souhaite et j'essaie de travailler pour, c'est juste de réussir à être assez bien avec mon corps, parce que je suis assez bien avec moi-même, je suis quelqu'un qui s'ennuie jamais tout seul. Assez mal avec mon corps, donc j'espère plutôt changer mon rapport à mon propre corps et ce qui changera aussi ma confiance en moi, pour m'épanouir de façon encore plus forte. Et je pense que ma partenaire aura encore plus de plaisir si, en fait, moi-même, je me laissais...
Tu te sens sexy, quoi.
Si je me sens sexy. Mais assez bizarrement, des fois, ça m'arrive, hein, je veux dire, des fois...
Ah, je le souhaite.
Des fois, je commence, quand on fait l'amour, enfin, je me sens, pas entre guillemets, puissant, mais je me trouve sexy et je vois dans son regard qu'elle me trouve sexy. Et moi, ce que j'adore, c'est si ma compagne, je suis en suite, comme actuellement, en suite dégueulasse de pyjama, et si la personne me trouve sexy, moi, j'adore. Je veux dire, les filles, j'ai toujours considéré que, par exemple, c'est assez horrible, moi, les filles qui ont fait des efforts pour moi, en fait, pour moi, une fille ne devrait jamais faire un effort de type maquillage ou robe pour se trouver sexy. Et moi, je sais que j'ai jamais trouvé une fille aussi sexy que quand elle arrive avec un suite dégueulasse, un short ou en combi licorne ou non mais c'est-à-dire qu'en fait c'est tellement naturel.
Ouais.
Que je trouve que en fait c'est là où les personnes sont le plus simples. Moi j'ai une personne qui fait attention, qui met plein de maquillage, je lui dis si toi ça te fait du bien d'être comme
bien
ça.
Bien sûr.
C'est cool, mais en fait par contre moi ça ne m'atteint pas, je te trouve pas plus belle comme ça que quand tu l'es le matin en fait. Donc en fait pour moi réellement ce que je souhaite c'est juste pouvoir moi-même me sécuriser assez dans ma sexualité et par rapport à mon rapport à mon sexe et mon rapport à ça pour me dire en fait je suis bien et je sais que intellectuellement je pense ne pas être un amant trop mauvais, je ne vais pas dire un bon amant parce que encore une fois j'utilise un mot de type je doute, mais je pense la satisfaire à ce qu'elle en dit. Je pense que si malgré tout j'étais plus à l'aise avec moi-même, je pourrais peut-être satisfaire encore plus parce que ça pousserait la connexion entre nous plus loin parce que j'arrêterais de réfléchir en fait. Ça deviendrait beaucoup plus spontané si on peut utiliser ça comme ça.
Ouais, je comprends. Léonard, ce sera quoi le mot de la fin ?
Le mot de la fin. j'aime bien ce concept-là. Je pense qu'on n'a jamais d'expérience en sexualité. Enfin, on n'est jamais plus expérimenté de quelqu'un parce que chaque nouvelle personne, c'est une nouvelle première fois. Moi, je vois ça vraiment comme ça et c'est pour ça que je suis toujours stressé la première fois. Donc, avec quelqu'un. Parce que pour moi, je peux jamais être sûr de ce qui va arriver. Donc, en fait, on devrait voir chacune de nos partenaires et presque même chaque jour, à chaque fois qu'on a une nouvelle relation, mais avec un partenaire qu'on a depuis longtemps, quasiment comme une première fois parce qu'on sait jamais comment va être la personne ce jour-là.
C'est très juste. Bah, je te remercie infiniment.
Ben, merci à toi. C'était un plaisir, en tout cas.
Merci pour votre écoute et merci à Léonard de s'être prêté au jeu. J'espère que l'épisode vous a plu. Sachez qu'il y a eu 2 heures d'enregistrement. Ça a été un montage assez intense à faire, mais en tout cas, j'espère l'avoir restitué au mieux. Merci encore pour vos soutiens, vos DM, vos messages, vos mails. Je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment, c'est super important pour moi que vous sachiez que je vous lis, que je vous réponds. Et c'est toujours un vrai plaisir que d'échanger, quel que soit le sujet. N'hésitez pas à venir suivre la page Instagram du compte On The Verge et à laisser un avis sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.